Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, il est 19h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 28 mars 2022. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Dans l'est de la République démocratique du Congo, des combats entre l'armée et les rebelles du M23 poussent la population à fuir vers l'Ouganda. Au Kenya, acquittement de 16 conducteurs de mototaxi après l'agression collective d'une diplomate. Rencontre inédite sur le sol israélien entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et ses homologues d'Israël et de 4 pays arabes. Violent combat dans l'est de l'Ukraine tandis que la situation empire à Mariupol dans l'attente d'un couloir humanitaire. Après le journal, ce sera la Minute Éco et les sports. Dans l'est de la République démocratique du Congo, des combats ont opposé la nuit dernière l'armée aux rebelles du M23. Ces violences ont poussé des habitants des villages de la région à fuir vers l'Ouganda. Nani Talani nous en dit plus.
Les positions de l'armée congolaise ont été attaquées par les rebelles du M23 à Runyoni et Tianzu. Ils ont occupé nos positions durant la nuit. Nous sommes en train de chercher comment récupérer les endroits pris, a expliqué le lieutenant-colonel Muindo Luanzo, directeur de cabinet de l'administrateur militaire du territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. Dans le groupement voisin de Djomba, la situation est tendue. La population tente de fuir vers l'Ouganda ou vers Rutshuru, explique Jackson Kakusi, chef de ce groupement. Le mouvement du 23 mars a été accusé d'avoir attaqué plusieurs positions militaires dans la région de Rutshuru. Un communiqué du M23, publié dimanche, estime que les opérations des troupes congolaises contre ces combattants traduisent sans doute le choix définitif du gouvernement d'en découdre avec le M23.
RDC toujours, la défense d'un avocat d'affaires congolais accusé d'atteinte à la sûreté de l'État a dénoncé un abus de pouvoir de l'Agence nationale de renseignement qui le détient au secret et a appelé à sa libération. Avocat au barreau de Goma dans le Nord Kivu, maître William Baloumé Kavebois a été arrêté le 21 novembre à l'aéroport de Kinshasa alors qu'il devait se rendre à Dubaï. Le dialogue de réconciliation nationale en Centrafrique a atteint son objectif, a assuré le président Faustin Archange Touadéra à sa clôture hier, malgré l'absence d'avancées concrètes après une semaine de débats dans les groupes, sans les groupes armés ni l'opposition. Le président du dialogue, Richard Filkota, a annoncé que 600 recommandations ont été formulées. Au Burkina Faso, le chef de l'ancien parti au pouvoir a été libéré hier soir après une interpellation dans la matinée. Alassane Bala Sakande a été autorisé à regagner son domicile sans poursuite, a indiqué le MPP, disant qu'il lui a été reproché d'avoir organisé une conférence de presse qui constituerait un activisme politique débordant du parti. Le 24 mars, M. Sakande a appelé à la libération du président renversé Rochmar Christian Kabore, en résidence surveillée depuis 2 mois. Vendredi, la CDAO a semé la junte de libérer M. Kabore sans délai. Au Mali, les autorités militaires de transition n'ont pas fourni les garanties nécessaires pour assurer la poursuite des missions de formation de l'Union européenne qui vont devoir être recalibrées, a annoncé le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, lors d'une audition devant le Parlement européen. Les commandants des missions ont reçu l'ordre de cesser certaines formations et les entraînements. Une discussion est prévue demain au niveau des ambassadeurs des États de l'Union et les décisions seront prises lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères en avril, a-t-il ajouté. Au Kenya, un tribunal a acquitté et ordonné la libération de 16 conducteurs de mototaxi. Ils avaient été arrêtés après l'agression début mars d'une femme diplomate dans sa voiture. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
L'officier en charge de l'enquête, n'ayant trouvé aucune preuve permettant de poursuivre les suspects, je les remets en liberté, a déclaré la juge Martha Nanzushi, acquittant 16 conducteurs de mototaxi. Un 17e homme, considéré comme le meneur de l'agression, va faire l'objet d'un procès. Il encourt une peine maximum de prison à vie s'il est reconnu coupable d'agression sexuelle. Ces chauffeurs de mototaxi appelés Boda Boda ont été arrêtés début mars, 3 jours après une agression qui a eu lieu en plein jour à Nairobi, après un accident de la circulation. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on voyait la jeune femme diplomate hurlant pour se défendre au volant de sa voiture lorsqu'un groupe d'hommes essayait de la dévêtir. Face au tollé suscité par cette agression, le président Uhuru Kenyatta a ordonné un recensement des mototaxis du pays. Au Kenya, les chauffeurs de Boda Boda ont mauvaise réputation pour non-respect du code de la route et sont souvent accusés de vol à l'arraché.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et ses homologues d'Israël et de 4 pays arabes ont conclu une rencontre inédite aujourd'hui sur le sol israélien. L'État hébreu parle d'un message fort à l'Iran, décrit comme un ennemi commun. Jacques Aristide nous en dit plus.
Les chefs de la diplomatie des États-Unis, d'Israël, d'Égypte, du Maroc, des Émirats arabes unis et de Bahreïn étaient réunis à Negev, où repose la dépouille du fondateur d'Israël, David Ben Gourion. Les pays arabes et l'Amérique ont insisté sur l'importance de résoudre le conflit israélo-palestinien. Anthony Blinken a mis l'accent sur les gains liés à la normalisation en 2020 entre Israël, les Émirats, Bahreïn et le Maroc, qui selon lui ne doivent pas faire oublier le conflit israélo-palestinien. La normalisation n'est pas un substitut à des progrès entre Israéliens et Palestiniens, dit-il, en réaffirmant son soutien à la solution à 2 États, un État palestinien aux côtés d'Israël. Par ailleurs, le roi Abdallah II de Jordanie s'est entretenu aujourd'hui avec le président palestinien Mahmoud Abbas à Ramallah en Cisjordanie occupée, au moment où se tenait la rencontre en Israël. Ce rare déplacement du roi jordanien à Ramallah, le premier depuis 2017, fait suite à une rencontre hier entre Mahmoud Abbas et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. La région ne peut pas jouir de sécurité ou de stabilité sans une solution juste à la question palestinienne sur la base d'une solution à 2 États, a affirmé le roi jordanien. Sa visite intervient quelques jours avant le Ramadan qui doit débuter en fin de semaine.
Les négociateurs russes et ukrainiens doivent se retrouver demain pour de nouveaux pourparlers à Istanbul. Les autorités ukrainiennes s'inquiètent d'une aggravation de la situation humanitaire à Mariupol, port stratégique assiégé. Le point avec Eric Manirakiza.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé un blocus total sur Mariupol, dont l'armée russe tente de s'emparer depuis fin février et où quelques 100 000 personnes sont toujours coincées. Toutes les entrées et sorties de la ville sont bloquées. Il est impossible de faire entrer à Mariupol des vivres et des médicaments, a-t-il affirmé. Le président français Emmanuel Macron a indiqué dimanche qu'il parlerait à son homologue russe Vladimir Poutine lundi au mardi pour organiser une opération d'évacuation de la ville. Sur le front diplomatique, les négociateurs russes et ukrainiens doivent arriver aujourd'hui à Istanbul pour une nouvelle session de pourparlers. Un des points importants de ces négociations portait sur les garanties de sécurité et la neutralité, le statut dénucléarisé de notre État, a déclaré dimanche le président Zelensky à des médias russes.
Moscou a annoncé l'expulsion de 3 diplomates slovaques en réaction à une décision similaire prise par ce pays. Un peu plus tard, la Macédoine du Nord a ordonné l'expulsion de 5 diplomates russes. Le président américain Joe Biden a proposé ce lundi dans son projet de budget 2023 de faire payer plus d'impôts aux Américains les plus riches. Ce projet comprend 6,9 milliards de dollars pour l'OTAN et la lutte contre l'agression russe, ainsi qu'un milliard supplémentaire en faveur de l'Ukraine. Et en France, des violences urbaines ont éclaté la nuit dernière en banlieue parisienne. 2e nuit de tension après la mort samedi d'un homme au volant d'une camionnette volée, tué par le tir d'un policier. À Sévran, des barricades enflammées ont été dressées. 8 véhicules, dont un poids lourd, ont été incendiés, propageant le feu à 4 autres véhicules. 5 personnes ont été interpellées. À Aulnay-sous-Bois, un bus de transport public a également été incendié. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Claire Morin-Gipour.
En Guinée, la junte a annoncé la signature d'un accord cadre historique avec les deux sociétés actives sur les quatre blocs du gisement de fer Simandou. Rio Tinto Simfer et Winning Consortium Simandou vont mutualiser leurs investissements pour la construction d'un chemin de fer d'environ 670 km permettant d'acheminer la future production de fer vers le port en eau profonde qui sera construit à Moribaya. La Banque africaine de développement et la CDAO ont signé un protocole d'accord de 3,56 millions de dollars pour développer l'industrie pharmaceutique en Afrique de l'Ouest. L'objectif est de soutenir la mise en œuvre de la réglementation relative à l'application d'une franchise de droits de douane sur les matières premières pharmaceutiques. Le gouvernement ukrainien a estimé lundi à plus de 515 milliards d'euros les pertes économiques engendrées par la guerre avec la Russie. La ministre de l'économie ukrainienne, Yulia Sviridenko, a détaillé les effets sur l'économie, dont l'explosion du chômage, la forte diminution de la consommation des ménages et la baisse des recettes de l'État. Selon elle, près de 8000 km de routes ont été endommagées, 10 millions de mètres carrés de logements et plus de 200 000 voitures ont été détruites.
À présent, les sports présentés par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. On connaîtra demain les 5 représentants africains pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. À l'issue des barrages retour, zone Afrique, certaines sélections sont déjà sous pression, comme le Sénégal, qui a un but à remonter face à une équipe d'Égypte réputée pour son jeu défensif. Un match donc difficile et décisif pour les Lions de la Teranga, qui n'ont plus de calcul à faire que de gagner pour aller au Qatar, comme le reconnaît leur sélectionneur.
On était allé là-bas pour gagner. On n'a pas pu gagner. On ne démérite pas. Je pense que sur l'ensemble du match, le match nul était équitable pour les deux équipes. Maintenant, ce n'est pas le cas. Voilà, une défaite reste toujours une défaite. Il faut évacuer rapidement cette défaite-là. Comme je le dis, nous avons confiance en nous. Nous savons que cette Coupe du Monde-là, nous pouvons y aller. Dieu fait que ce match-là de mardi, d'un match important, devient un match décisif, qu'on ne se voile pas la face. Donc, il faut impérativement que le Sénégal gagne.
Aliou Cissé, coach du Sénégal, au micro d'Amdine Nassi, notre consultant à Dakar. Après une première défaite 1-0, non seulement à domicile depuis 1998, mais aussi un premier revers face à l'Algérie, un match officiel, le sélectionneur du Cameroun, Rigobert Song, a raté son début. Les Lions indomptables n'ont plus d'autre choix que d'aller gagner à Blida pour valider leur ticket, tout comme le Mali à Tunis, après son échec 1-0 à domicile contre la Tunisie. Pour le coach des Aigles de Carthage, il ne faut pas s'enflammer.
On respecte énormément l'équipe malienne, un potentiel assez important. Nous savions que l'équipe de Mali, elle a une qualité extrême, des joueurs performants, des joueurs qui ont des qualités athlétiques et techniques très redoutables, nous ont mis dans des difficultés énormes. Il se peut que notre respect pour cette équipe, c'est ça qui a fait la différence. Cette victoire n'aura aucune importance si on ne confirme pas le match retour. Donc pour nous, c'est un match à oublier. On sait que ça va être plus difficile pendant le match retour. Donc c'est à nous d'être toujours avertis. Inch'Allah, que ce sera comme ici un match très équilibré entre deux nations qui ont montré de très belles choses durant toute cette période éliminatoire de la Coupe du Monde.
Jalel Kadri, sélectionneur de la Tunisie, au micro de Siaka Traoré, notre correspondant à Bamako. Tout reste en revanche ouvert pour les deux autres confrontations. Le Maroc, qui a ramené le nul un but partout de son déplacement à Kinshasa, devant la République démocratique du Congo. Le Nigeria aussi est revenu du Ghana avec un résultat nul 0-0. Le duel entre les deux géants de l'Afrique de l'Ouest garde donc tout son suspense. 20 des 32 tickets pour le mondial prochain au Qatar, prévu du 21 novembre au 18 décembre 2022, ont trouvé preneur après la qualification dimanche du Canada. Les Canadiens retrouvent ainsi le mondial après 36 ans de disette, écrasant 4-0 la Jamaïque.
Merci beaucoup, Yacouba, pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. En Guinée, plusieurs résidences, dont celle de l'ancien Premier ministre Seloud Alain Diallo, ont été détruites ce week-end à Conakry. Selon les autorités de la transition, il s'agissait de maisons ne répondant pas aux normes de l'habitat. Le point avec notre correspondant Zakaria Camara.
Alors que le dossier est en cours d'instruction au niveau de la justice, les autorités ont fait démolir mon bâtiment de Dixine et ses annexes ce samedi 26 mars 2022. Ces premiers mots de Seloud Alain Diallo ont été publiés par la cellule de communication de son parti. Sa résidence de Dixine et d'autres appartenant aux citoyens guinéens ont été réduites en amas de gravats. Cette opération lancée par les autorités de la transition est très commentée dans la capitale.
Il y a des pauvres ici, leur maison a été cassée, donc rien n'a été dit. Donc M. Seloud Alain Diallo aussi peut accepter.
L'affaire est en justice. Donc ils pouvaient attendre après le verdict du juge et maintenant faire ce qu'ils avaient à faire. Je pense que c'est pas bien.
Seloud Alain Diallo attendait la décision de la justice, mais pour les autorités, il s'agit d'une urgence qui n'entrave pas le cours normal de la procédure. Ce citoyen rencontré dans la banlieue de Conakry est convaincu que seul Seloud Alain Diallo est visé par cette opération.
Seloud n'est pas le seul concerné, mais Seloud est un symbole, Seloud est une icône, c'est pourquoi les gens en parlent. Même si on veut que détruire Seloud, même si on ne veut qu'humilier Seloud, on cherche, n'est-ce pas, à humilier d'autres. Toutes les autres victimes sont des victimes collatéraux pour moi.
Les bâtiments démolis ne répondent pas aux normes de l'habitat, ont affirmé les autorités de la transition qui promettent en lieu place de construire de nouvelles infrastructures. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Cameroun, les consommateurs sont inquiets de la tendance à la hausse des prix sur le marché depuis le déclenchement de la crise en Ukraine. Les prix du sucre, de la baguette de pain et de la farine de blé ont augmenté ces derniers jours. Le gouvernement a prévenu la population. Un reportage d'Emmanuel Juntap à Yaoundé.
Vous savez qu'on a augmenté le prix de la farine. Nous sommes aussi obligés d'augmenter aussi le prix du pain.
Une réponse laconique d'un gérant d'une boulangerie dans le quartier populaire de Vogmbia Yaoundé face à un client surpris du nouveau prix de la baguette de pain. Jean-Claude Tagné est le gérant de la boulangerie.
Avant, on achetait à 19 500 le sac. Et maintenant, ça monte déjà à 25 000, 26 000 francs. Voilà pourquoi on va maintenant le pain qu'on vendait à 125, c'est maintenant à 150.
Au coin d'une ruelle, au quartier Mvogada, dans le 4e arrondissement de la capitale, Issa vend des beignets de farine de blé. Le jeune pâtissier redoute déjà l'incidence de l'augmentation du produit sur ses bénéfices. Les élèves sont comptés parmi sa plus grande clientèle.
Nous sommes obligés de diminuer un peu la grosseur des billets parce qu'on a commencé avec le nouveau sac de 25 kilos et on ne sait pas combien ça peut nous donner d'abord. Bon, on a préféré d'abord maintenir d'abord avec la même. Après, on va diminuer. Après, si ça ne va pas, on va diminuer la même.
La hausse concerne d'autres produits de première nécessité. Depuis le 14 mars dernier, la société sucrière du Cameroun a revu le prix du sac de 50 kg de sucre blanc qui coûte maintenant 29 800 francs CFA dans les trois régions de la partie septentrionale et 28 750 à Yaoundé. Auparavant, il coûtait 27 500 francs CFA.
C'est une augmentation factice et légale.
Dès lors, Magellan Kamgem Kamse, président de la Ligue camerounaise des consommateurs.
Il n'y a que le gouvernement camerounais, conformément à la loi du 21 décembre 2015, régissant les activités commerciales. Donc cette loi-là qui donne mandat au gouvernement à travers le ministère des prix de pouvoir donner son mot sur certains produits de grande consommation dont les prix sont soumis aux modifications préalables, y compris le sucre. Donc le prix du sucre ne peut pas être très fluctuant ou fluctué par la seule volonté des producteurs.
Les consommateurs disent être pris dans un engrenage suite à la crise entre l'Ukraine et la Russie.
On n'est pas avisé, les prix augmentent, ça ne descend jamais. On aimerait que ces prix-là descendent. Ce n'est pas seulement la farine, dernièrement c'était l'huile. Puis le gouvernement essaye un peu de faire que le Camerounais moyen essaye aussi de vivre.
La ration qu'on donne, vraiment ça ne donne pas. et ça crée les disputes même au sein du foyer.
Les prix ont augmenté drastiquement. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on se demande même si nos autorités s'en rendent compte. Les prix augmentent sur le marché, mais les salaires restent statiques depuis plusieurs années.
Le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga-Tangana, a annoncé que, citation, la crise en Ukraine aura des impacts au Cameroun, car 50% des importations du blé dépendent de la Russie et de l'Ukraine. Fin de citation. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement a décidé d'alléger les mesures de restriction dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Le port du masque n'est plus obligatoire, ainsi que le test PCR et antigénique, tandis que la vaccination est élargie aux enfants à partir de 12 ans. Plus de détails avec Delphine Bowies, notre correspondante à Abidjan.
Le ministre de la Santé, après examen des travaux du comité d'experts, souligne la faible circulation du virus et l'absence de cas de nouveaux variants dans le pays. Le Conseil national de sécurité a été informé des dispositions prises par le gouvernement. Le ministre Fidel Sarasoro, secrétaire général du Conseil national de sécurité.
Le port du masque n'est plus obligatoire, sauf dans les endroits clos et lors des grands rassemblements. Les voyageurs à destination de la Côte d'Ivoire présentant la preuve d'une vaccination complète seront dispensés de tests PCR. Les participants aux cérémonies et spectacles présentant la preuve d'une vaccination complète seront dispensés de tests antigéniques.
Dans la foulée, le comité de veille du ministère de la Santé a autorisé la vaccination facultative des adolescents âgés de 12 à 17 ans. Professeur Benyé Bivro-Joseph, directeur général de l'Institut national d'hygiène publique, explique.
Depuis longtemps, le ministère de la Santé avait prévu ça. Il fallait aller de façon graduelle. Maintenant, on va intégrer les personnes qui ont 12 ans et plus. L'objectif, c'est de faire 70% de la population cible de cette couverture vaccinale-là, parce que désormais, nous avons suffisamment de vaccins.
Mais il a tenu à faire cette précision.
Ces adolescents, on ne leur fait que le vaccin Pfizer. On ne leur fait pas les autres vaccins. Et pour les faire, il faut qu'on ait l'autorisation des parents, parce que c'est des mineurs.
Les réactions de quelques adolescents concernés.
Allô, Afro-Ange-Uriel, j'ai 12 ans. C'est bon de se faire vacciner si tes parents disent obéir.
Amafou-Serge, Hervé Johan, j'ai 17 ans. Je pense que oui, là mon père ou ma mère m'a dit ce qui est juste ou n'est pas juste.
Yoboy Ange Matitia Sorale, j'ai 17 ans, je suis en classe de terminale G1. Les enfants peuvent aussi être atteints du Covid-19. Alors, il est bon de se faire vacciner, il se faut aussi accompagner par nos parents.
Et celle de ceux qui sont sceptiques.
Nyali Sintich qui est présent. Une idée sur la vaccination aux adolescents, je trouve pas ça mal. Mais pour moi, si j'étais à leur place, je n'allais pas le faire. Parce que j'ai un peu peur par rapport à tout ce que les grandes personnes disent.
Quoi déjà Fanon Suryan, 14 ans. Si mes parents me disent non, je ne peux pas le faire.
Les parents aussi donnent leurs avis.
Monsieur Francis André, j'estime que pour les questions de maladie, c'est l'avis des spécialistes qui doit compter.
Koulibaly Malika, j'ai été toujours sceptique. Dieu merci, c'est avec l'accord de parents. Donc si le parent n'a pas donné d'accord, non, il n'y a pas de vaccination. Donc c'est déjà bon pour moi.
Les premiers à être vaccinés, il faut que nous disent que les résultats sont probants, que l'immunité est complète.
Par ailleurs, le respect scrupuleux des gestes barrières, le dépistage systématique et la vaccination sont toujours de mise, signale le comité de veille sanitaire. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur la guerre en Ukraine, plus d'un mois après l'invasion russe. Les combats se poursuivent, les pourparlers aussi, sur fond d'une vive polémique survenue lors de la récente tournée en Pologne du président américain Joe Biden. Les effets du conflit se font déjà sentir. L'Afrique, jugée particulièrement vulnérable aux séquelles de cette guerre, appelle à l'aide. Une issue diplomatique est-elle toujours envisageable? Comment les pays africains peuvent-ils se protéger des répercussions de la crise russo-ukrainienne? Nous attendons vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
La 94e cérémonie des Oscars s'est tenue hier au Dolby Theater dans le célèbre quartier d'Hollywood. Avec des surprises, des consécrations et même une altercation, la soirée n'a pas manqué de moments forts. Le point avec Dilly Dico, envoyé spécial de la Voix de l'Amérique à Los Angeles.
And the Oscar goes to...
Will Smith!
L'acteur Will Smith a ravi la vedette lors de la 94e édition de la cérémonie de remise des Oscars. L'acteur s'est d'abord illustré en s'empressant sur le podium pour gifler Chris Rock. Le comédien Chris Rock s'est permis de faire une blague sur l'apparence de Jada Pinkett Smith, l'épouse de Will Smith. Un peu plus tard, en fin de soirée, Will Smith a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation de Richard Williams, le père des célèbres joueuses de tennis Venus et Serena Williams. Il s'agit là de son premier Oscar.
I want to say thank you to Venus and Serena. I just spit. I hope they didn't see that on TV.
Je veux dire merci à Venus et Serena. J'espère qu'elles ne verront pas ces larmes à la télé. Je veux dire merci à Venus, à Serena et à toute la famille Williams qui m'ont fait confiance pour raconter leur histoire. Je veux être une sorte d'ambassadeur pour ce type d'amour, des soins et d'inquiétude pour l'autre.
C'est une véritable consécration pour Will Smith après 30 ans dans l'industrie du cinéma et 20 ans après sa première nomination. Du côté des femmes, Jessica Chastain a été primée meilleure actrice pour son rôle dans The Eyes of Tammy Faye, qui raconte l'histoire d'une évangéliste et businesswoman américaine des années 70.
Also, it's very special to be part of a film that means something to me, and that it.
C'est très spécial de prendre part à un film qui a un sens pour soi. Il réexamine la vie. C'est très important de s'offrir des fleurs quand nous sommes toujours en vie. Et nous avons raté cette opportunité avec Tammy Faye. C'est vraiment spécial pour moi. Durant toute la cérémonie, j'ai échangé des textos avec ses enfants.
Thank you so much and congratulations.
La soirée s'est conclue avec une belle note, avec la victoire de Coda, sacré meilleur film de l'année. C'est l'histoire d'une famille de malentendants qui navigue le quotidien avec l'aide de leur fille de 17 ans, la seule personne qui entend dans ce foyer.
Il y a trois acteurs malentendants dans ce film et nous disons qu'ils sont de ce monde. Que vos histoires sont importantes. J'espère que ce sera le rocher au sommet de la montagne qui va déclencher une avalanche. J'espère que ce ne sera pas seulement un film, mais un mouvement.
Avec la victoire de Coda, le monde du cinéma met les projecteurs sur la vie des personnes malentendantes. L'Académie des Oscars avait annoncé une très belle et inoubliable soirée. La promesse a été tenue. Dilly Dico, VOA Afrique, Los Angeles.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur votre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la technique, c'était Michel Joseph. À la présentation, Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur voaafrique.com. Très bonne soirée à toutes et à tous. Et bon courage.